Chapitre 7.
Au moment où se produit ce phénomène, le projectile passe à moins de 50 km du pôle nord de la Lune. Quelques secondes lui ont donc suffi pour se plonger dans les ténèbres absolues de l'espace.
« La Lune a disparu !»
s'écrie Michel Ardan. En effet, aucun reflet, aucune ombre. On ne voit plus la Lune. L'obscurité est complète. À l'intérieur du boulet, elle l'est aussi. Les trois compagnons doivent donc allumer les lampes, mais faiblement pour ne pas risquer de vider les réserves de gaz.
« Bon, » dit Michel Ardan. « Maintenant que nous y voyons quelque chose, déjeunons. Après une nuit entière d'observation, il faut bien reprendre des forces. »
Cette proposition est aussitôt acceptée. Mais le repas est un peu triste, car les voyageurs se demandent avec inquiétude ce qui va leur arriver. Leur déjeuner terminé, ils retournent à leur poste d'observation. Ils essaient de voir à travers les sombres hublots, mais pas un seul rayon lumineux ne traverse l'obscurité. Il est 8h du matin, le 6 décembre, et les trois hommes se demandent où ils se trouvent. Près de la Lune, sans aucun doute. Mais ils ne peuvent évaluer la distance qui les en sépare. Aucun point de repère ne leur permet de connaître la direction et la vitesse du projectile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils continuent à avancer. Les observations sont devenues très difficiles à travers les hublots, car la température extérieure a énormément baissé depuis que les voyageurs sont dans la zone d'ombre, et l'humidité intérieure se condense sur les vitres du boulet et s'y congèle. Nos trois amis cherchent donc toujours à interroger les ténèbres, mais ils n'obtiennent aucune réponse.
« Si jamais nous recommençons ce voyage, » affirme Michel, « il vaudra mieux choisir l'époque où la Lune est nouvelle. »«
En effet, » dit Nicole.
« Ainsi, si nous sommes entraînés autour de la Lune, comme cela arrive en ce moment, nous pourrons en voir le disque invisible magnifiquement éclairé. »«
Si jamais nous recommençons ce voyage, » dit Barbicane, « nous partirons à la même époque et dans les mêmes conditions. »
Si nous avions atteint le but de notre voyage en nous posant sur la Lune, nous aurions pu facilement visiter ce côté invisible que nous sommes en train de longer. Mais pour arriver au but, il ne fallait pas être dévié de notre route.
Dommage, dit Michel Ardan, nous avons manqué une belle occasion d'observer l'autre côté de la Lune.
Cependant, le boulet continue de suivre dans l'ombre cette trajectoire que les trois voyageurs ne peuvent déterminer. Pendant la nuit de cette même journée, les amis ne peuvent prendre du repos. Ils se demandent ce qui va se passer et attendent un signe qui leur permettrait enfin de comprendre vers quelle destination le boulet se dirige. De temps en temps, ils retirent la glace sur les vitres pour essayer de voir quelque chose à l'extérieur. Soudain, alors que Barbicane regarde par le hublot, il voit apparaître une masse énorme. C'est comme une lune, mais une lune incandescente. Cette masse, ronde, jette une lumière si forte qu'elle éclaire tout le projectile.
« Mille diables !» s'écrie Michel Ardan. « Qu'est-ce que c'est que cette étrange lune ?»«
Un bolide !» répond Barbicane.
« Un bolide enflammé dans le vide ?»«
Oui. »
Ce globe de feu est en effet un bolide. Barbicane a raison. D'après lui, il doit avoir un diamètre de 2000 mètres et il s'avance vers le projectile à une vitesse de 2 km à la seconde. Il va l'atteindre en quelques minutes et, en s'approchant, il paraît encore plus immense. On imagine la situation des voyageurs. Malgré leur courage et leur sang-froid, ils sont muets, immobiles, effrayés. Leur projectile, dont ils ne peuvent pas dévier la marche, va se précipiter sur cette masse en feu. Barbicane saisit la main de ses deux compagnons et tous les trois, horrifiés, voient avancer vers eux cet horrible danger. Deux minutes après son apparition, la boule de feu éclate comme une bombe, mais sans faire de bruit, au milieu de ce vide où aucun son ne peut se produire. Nicole pousse un cri. Ses compagnons et lui se précipitent à la vitre du hublot. Quel spectacle ! Des milliers de fragments lumineux éclairent l'espace. De la masse énorme et effrayante, il ne reste plus que des morceaux de toutes les couleurs, jaune, rouge, vert, gris, emportés dans toutes les directions. Tous ces morceaux s'entrechoquent et se divisent en fragments encore plus petits. L'un d'eux frappe le projectile, mais heureusement, cet incident n'a pas de conséquences. La lumière qui illumine l'espace est si intense que Michel, entraînant Barbicane et Nicole vers son hublot, s'écrie « L'invisible lune ! Visible ! Enfin !» Et tous trois peuvent contempler ce disque mystérieux que l'œil de l'homme aperçoit pour la première fois. Que voit-il ? Des montagnes, des cirques, des cratères comme ceux qui existent sur la surface visible, puis des espaces immenses, des mers. Tout cela est très rapide car les fragments du bolide s'éloignent bientôt et laissent de nouveau la place aux ténèbres. Mais nos amis peuvent cependant noter toutes leurs impressions dans l'espoir de pouvoir les faire lire un jour à leurs semblables.